Bonjour le monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, au micro Idrissa Seloudia. L'armée israélienne a mené aux premières heures de lundi une intense série de frappes sur Gaza après une semaine noire ayant fait quelque 200 morts dans les violences entre l'État hébreu et le Hamas islamique, resté sourd aux appels internationaux à la désescalade. Dans la nuit de dimanche à lundi, l'aviation israélienne a pilonné la bande de Gaza à des dizaines de reprises en l'espace de quelques minutes, provoquant des coupures de courant, a constaté un journaliste de l'AFP. Des centaines de bâtiments ont été endommagés d'après les autorités locales qui n'ont pas fait état de victimes dans l'immédiat. Dans un communiqué, l'armée israélienne a indiqué avoir ciblé 9 maisons appartenant à de hauts commandants du Hamas et qui servaient pour certaines à stocker des armes. Gaza a enregistré hier son bilan quotidien le plus lourd depuis le début de ce nouvel épisode de violence. 42 Palestiniens, dont au moins 8 enfants et 2 médecins, ont péri dans des raids, selon le ministère local de la Santé. Au total, depuis le 10 mai, 197 Palestiniens ont été tués, dont au moins 58 enfants et plus de 1200 blessés. Côté israélien, 10 personnes ont été tuées, dont un enfant, et 294 blessés après des tirs de groupes armés palestiniens depuis Gaza. Le premier ministre israélien Benjamin Netanyahou souligne que la campagne actuelle continue à plein régime. Les hostilités se sont étendues à la Cisjordanie, où des affrontements avec l'armée israélienne ont fait 19 morts depuis le 10 mai, selon un bilan palestinien. Sur son territoire, Israël est également confronté à des violences inédites et des menaces de lynchage dans ces villes mixtes où vivent juifs et arabes israéliens. À Jérusalem-Est, attaque à la voiture Bélier, l'assaillant a été tué et plusieurs arrestations d'un certain nombre de personnes donc, après des heures nocturnes. Dans quelques instants, Abdulrahman Dia reviendra sur l'impasse diplomatique hier à l'ONU où les États-Unis, alliés traditionnels d'Israël, sont isolés en raison de leur opposition à la publication d'une déclaration du Conseil de sécurité sur le conflit en cours. Washington redoute que cela nuise aux négociations diplomatiques menées en coulisses. Un émissaire américain a été envoyé dans la région. Le président Joe Biden s'est entretenu samedi avec le premier ministre Benjamin Netanyahou et le président de l'autorité palestinienne Mahmoud Abbas. De son côté, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken s'est entretenu avec les ministres qataris, saoudiens et égyptiens des Affaires étrangères, a dit hier le département d'État. Au moins 10 civils ont été tués dans l'est de la République démocratique du Congo par des membres présumés des ADF, un groupe armé d'origine ougandaise. L'organisation KST, Kivu Security Tracker, a indiqué sur son compte Twitter que les 10 civils ont été tués mercredi 12 mai dans les villages de Ngaka et Mangundu, près de la ville de Mambasa, dans la province de l'Ituri. Les sources locales suspectent les ADF, possiblement en coalition avec un groupe local, a estimé KST. Pour sa part, l'administrateur du territoire de Mambasa a annoncé la découverte de 15 corps samedi dans cette zone, dans les environs du village de Ngaka. Les pays du G7 et des membres de l'Union européenne seraient en mesure de donner plus de 150 millions de doses de vaccins anti-Covid à des pays défavorisés pour tenter de combler en partie l'inégalité vaccinale face à la pandémie tout en remplissant toujours leurs engagements en matière de vaccination de leur propre population, affirme l'UNICEF ce lundi. Le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, a entamé hier une tournée consacrée à l'Arctique, nouvel enjeu des rivalités avec la Chine et première occasion de tester les relations délétères avec la Russie avant un probable sommet entre les présidents Joe Biden et Vladimir Poutine. Les combats ont repris dimanche entre forces gouvernementales et talibans dans le sud de l'Afghanistan au terme d'un cessez-le-feu de 3 jours décrété pour la fête musulmane de l'Aïd dans le contexte du retrait des derniers soldats américains. La suite de nos informations, réouverture des frontières algériennes à partir du 1er juin. C'est ce qu'annonce Alger dans un communiqué après plus d'un an de fermeture en raison de la pandémie de coronavirus. Les détails avec Abdourahman Dia.
Cette réouverture partielle des frontières a été approuvée en Conseil des ministres après la présentation des recommandations, indique le communiqué. Elle débutera dans un premier temps par un plan de 5 vols quotidiens de et vers les aéroports d'Alger, de Constantine et d'Oran, les plus grandes villes du pays, à partir du 1er juin, précise le texte. Elle s'opérera dans le strict respect des mesures préventives contre le Covid-19. Un communiqué détaillant les modalités de cette réouverture sera diffusé dans une semaine. Par ailleurs, plusieurs millions d'Algériens de l'étranger ont dû faire avec la fermeture des frontières et la suspension des vols commerciaux et des liaisons maritimes décidées le 17 mars 2020. Depuis, les autorités ont organisé des vols de rapatriement pour leurs ressortissants sous conditions, mais ces derniers ont été suspendus le 1er mars en raison de l'émergence du variant anglais fin février en Algérie. La fermeture prolongée des frontières a déclenché des mouvements de protestation, sinon de colère, au sein de la nombreuse diaspora algérienne, en particulier en France.
Une trentaine de dirigeants africains et européens ainsi que des institutions multilatérales se réunissent demain mardi à l'initiative du chef de l'État français Emmanuel Macron. Objectif, trouver des solutions inédites à la crise de financement en Afrique. Le point avec Michel Joseph.
La réunion sera précédée ce lundi d'une conférence de soutien à la transition au Soudan. Le premier ministre soudanais Abdallah Hamdok avait indiqué vouloir discuter à cette occasion d'une remise de dette avec le Club de Paris, le plus important créancier du pays avec environ 38% de ses 60 milliards de dollars de dette extérieure. L'idée de ce sommet sur le financement des économies africaines a vu le jour à l'automne quand le Fonds monétaire international a calculé que l'Afrique risquait de se heurter à un déficit de financement de 290 milliards de dollars d'ici 2023. Le moratoire sur le service de la dette publique, mis en place dès avril 2020, à l'initiative du Club de Paris et du G20, a également permis de donner un peu d'air en suspendant le paiement de 5,7 milliards d'euros d'intérêts au bénéfice d'une cinquantaine de pays. Et le G20 a réussi à convaincre la Chine, le plus gros créancier bilatéral du continent, et les créanciers privés de prendre part aux futures renégociations de cette dette. Un entretien bilatéral entre le président français et celui du Mozambique est par ailleurs prévu en marge du sommet mardi matin pour aborder notamment la situation dans le nord du pays aux prises avec une guérilla djihadiste.
Pas de répit dans le conflit israélo-palestinien alors que la réunion d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU hier dimanche n'a abouti à aucune avancée. Au moins 42 Palestiniens ont été tués hier dimanche à Gaza. Le point avec Abdourahman Dia.
À l'ouverture de cette troisième session virtuelle du Conseil de sécurité sur la situation au Proche-Orient, le secrétaire général Antonio Guterres a parlé de carnage. Pour lui, ce cycle insensé d'effusion de sang, de terreur et de destruction doit cesser immédiatement, redoutant que l'explosion de violence ne provoque une crise sécuritaire et humanitaire incontrôlable. Mais aucune proposition concrète n'a été adoptée. Selon plusieurs diplomates, les États-Unis continuent de refuser toute déclaration conjointe. Les groupes armés palestiniens, dont le Hamas au pouvoir à Gaza, ont tiré plus de 3000 roquettes vers Israël depuis le début de ces hostilités, le rythme le plus élevé de projectiles jamais tirés sur le sol israélien. C'est ce qu'a indiqué hier dimanche l'armée israélienne, soulignant qu'une grande partie avait été interceptée par son système antimissile. De son côté, l'armée israélienne a continué ses bombardements sur Gaza, tuant plusieurs civils et un chef du Hamas. Le premier ministre Benjamin Netanyahou a justifié la frappe samedi qui a pulvérisé la tour de 13 étages abritant les équipes de la chaîne d'information qatari Al Jazeera et l'agence de presse américaine AP, accusant le Hamas d'utiliser ce bâtiment pour ses opérations.
Et maintenant les sports avec Élisée Oumpatine. Élisée, bonjour.
Bonjour Idrissa et bonjour à tous.
Football avec les quarts de finale aller des interclubs de la CAF.
Oui, et en Ligue des Champions, les Tanzaniens de Simba, qui pourtant faisaient figure d'épouvantail après la phase de poule, ont été corrigés 4-0 en Afrique du Sud par les Kaizer Chiefs. Ça passe mal, en revanche, pour le second représentant sud-africain, les Mamelodi Sundowns, battus 2-0 au Caire par Al Ahly, qui a fait respecter son statut de champion en titre. 2-0 aussi, en faveur des Algériens du CR Belouizdad, qui créent la surprise devant l'Espérance de Tunis. Et puis, nul, 1-0 entre le Mouloudia d'Alger et le Wydad de Casablanca.
Quart de finale aller également en Coupe de la Confédération.
Et belle opération des Algériens de la JS Kabylie, vainqueur 1-0 sur le terrain des Tunisiens de Sfax. Les Égyptiens de Pyramide ont assuré à domicile 4-1 face aux Nigériens d'Enimba, tout comme Coton Sport de Garoua 1-0 contre le Djarab de Dakar. Et enfin, le Raja de Casablanca ramène le nul 1-1 d'Afrique du Sud face à Orlando Pirates. Les matchs retour sont prévus pour le week-end prochain.
Le foot aussi en RDC, c'est la 27e journée du championnat et Mazembe surclasse V-Club dans le Classico.
C'était le match tant attendu ce dimanche à Lumumbashi. Les Corbeaux ont dominé les Dauphins Noirs par le score de 3-1. Résumé du match avec notre correspondant Valdo Simon Yamba.
Importante victoire des Mazembe sur la SV Club de Kinshasa avec un doublé d'Adam Bossou, un but contre son camp d'Embarga. Les Corbeaux l'emportent 3-1 et font la bonne opération puisqu'ils passent désormais en tête du classement avec 2 longueurs d'avance sur les Dauphins Noirs de Kinshasa. Objectif atteint, estime Pamphile Miyayo, l'entraîneur des Mazembe.
C'est ce qui était important pour nous. On s'est dit qu'on doit faire un match costaud. On est ce match-là pour pouvoir espérer passer devant et espérer au titre.
Malgré cette défaite, la première de la saison, V Club reste bien en place et ne lâche rien, sachant qu'il compte 2 longueurs de moins et un match en retard que Mazembe à 6 journées de la fin de la saison sportive, rassure Florent Ibengue, l'entraîneur des Dauphins Noirs.
On encaisse 3 buts sur 3 erreurs de notre part. Félicitations à Mazembe, la lutte continue. On garde toujours notre idée, c'est d'être champion.
C'est donc une véritable course-poursuite pour les titres du championnat national de la RDC qui s'installe et les 2 prétendants se livrent une bataille sans merci. Kinshasa, Valdo Simoyamba, VOA Afrique.
Au Bénin, c'est le classico requin de l'Atlantique, Dragon de Lomé, qui marquait hier la fin de la phase aller des playoffs. Et pas de vainqueur au terme d'un match ennuyeux et pauvre en occasion. Les Buffs du Borgou, vainqueurs 2-1 de Rodio FC de Koumé, confortent leur place de leader.
On reste au Bénin pour parler du premier coup de pédale du Tour cycliste international qui va être donné ce lundi.
Tout à fait, et ce sera à Djougou, au nord du pays. Une première étape longue de 135,9 km. Ils seront 37 coureurs venus du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, du Nigeria, du Niger, du Sénégal et du Bénin à prendre part à la 16e édition de ce Tour du Bénin. Au final, 6 pays vont animer cette compétition avec l'absence de la République démocratique du Congo. Une distance de 1802 km au total à parcourir en 6 étapes qui va s'achever le 22 mai prochain par un critérium à Cotonou.
Du basket à présent, bien entendu, le début hier de l'Africa League à Kigali au Rwanda.
Oui, une compétition sur le modèle de la NBA aux États-Unis et qui a pour objectif de donner plus de visibilité au basketball africain. Faire connaître les équipes, les joueurs et les entraîneurs. Et belle entame pour les Rwandais de Patriot BBC qui ont dominé haut les mains les Nigériens de Rivers Hoppers, score 83-60. 3 matchs au programme aujourd'hui et on aura entre autres l'AS Douane du Sénégal, JS Pétrolier d'Algérie ou encore Zamalek du Caire Ferroviaro de Maputo.
Merci Élisée.
Bienvenue à vous chers auditeurs, VOA Afrique au cœur de la Basketball Africa League. Nous nous associons à la NBA pour vous offrir le meilleur du basket africain. VOA Afrique vous propose un résumé quotidien des matchs dans son journal télévisé. Les rencontres sont diffusées en direct à la radio avec des émissions d'avant et après match. Vous pouvez également suivre tout sur la balle sur notre site web voafrique.com. À eux de jouer, à vous de suivre. Vive le basket africain sur VOA Afrique et nos radios partenaires.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique, en votre compagnie Idrissa Seludia. Nous passons maintenant à nos dossiers du jour. Au Niger, un mouvement massif de population est observé depuis samedi dans la région de Tillabéri, situés dans la zone dite des trois frontières. Des centaines de personnes ont trouvé refuge dans le chef-lieu de la région, fuyant les atrocités récurrentes des groupes djihadistes. Reportage de notre correspondant Abdulrazak Idrissa.
Les décomptes n'étaient pas encore finis dimanche, mais de sources officieuses évoquent de centaines de personnes, voire de milliers, qui ont quitté les villages de la commune d'Anzourou, fuyant les atrocités des groupes armés non étatiques. Certains ont choisi de s'établir sur les localités aux abords de la route principale, alors que d'autres ont préféré continuer jusqu'au chef-lieu de la région de Tillabéri. Parmi ceux-ci, une grande partie vient du village de Ziban Kouarategui, à l'image de ce sexagénaire Issoufou Mourou. Tout ce beau monde que vous voyez vient du village de Ziban. Nous en avons assez, c'est pourquoi nous sommes venus ici. Nous implorons Dieu de nous sauver, parce que ces messieurs qui viennent nous attaquer, ils nous tuent, ils nous pillent, ils détruisent nos biens. Ici, au moins, nous avons un peu de quiétude. Les plus nombreux, ce sont bien sûr les femmes et les enfants, avec ses bébés jumeaux et son mari, Zalika Hamidou, n'envisage pas de retourner. Nous ne pouvons plus rester là-bas. Il n'y a ni à manger, ni à boire depuis des mois et les bandits nous ont terrorisés au point où, au moindre bruit de moto, tout le monde se terre dans les maisons. Moi, en tout cas, je ne pense pas si je vais retourner encore là-bas. C'est un véritable drame humain qui se joue dans cette zone et les autorités tentent tout de même de rassurer. Ibrahim Tijani Kachala est le gouverneur de la région de Tillabéri.
La situation elle est pitoyable, elle est inquiétante et traumatisante. Donc, c'est pourquoi on les a amenés à l'arène. Et on est en train de trouver les voies et moyens, non pas pour les garder à l'arène, mais pour créer les conditions pour qu'ils rentrent chez eux. Et rester vraiment en paix. Parce qu'ils ont tout laissé. Ils ont laissé leurs champs, ils ont laissé leur bétail, les habitations. Et là, en tout cas, les plus grandes républiques ont donné des instructions fermes pour que la sécurité soit mise en place afin de permettre à ces déplacés d'aller dans leur village d'origine. Et dans les meilleurs
délais. Ce déplacement massif des populations fait suite aux dernières attaques terroristes qui ont fait plus d'une dizaine de morts dans la commune de Lanzourou. Elles viennent s'ajouter aux multiples autres assauts des groupes armés non étatiques dans cette partie de la région de Tillabéri, située dans la zone dite des trois frontières. Abdulrazak Idrissa, à Niamey, pour VOA Afrique.
Vous êtes bien sur VOA Afrique, à Niamey au Niger, sur le 102.5 FM, 24h sur 24.
Cette initiative pour la réussite de la transition au Mali, c'est l'œuvre du groupe de réflexion Mali Prospective 2050. Ce week-end, ce groupe a convié plusieurs personnalités du monde politique et de la recherche pour plancher sur l'organisation d'éventuelles assises nationales pour relancer le Mali. De Bamako, notre correspondant Mohamed Danyoko.
Pour participer à la réussite de la transition, le groupe de réflexion Mali Prospective 2050 a réuni samedi des cadres de l'administration, de la société civile et des chercheurs pour trouver des voies et moyens et faire des propositions aux dirigeants. D'ores et déjà, l'idée d'une assise nationale semble se dégager. Maître Mamadou Gaoussou Diarra, responsable Mali Prospective 2050.
On va droit faire des élections, mais après, qu'est-ce qui va se passer? La question sécuritaire, elle ne sera pas résolue. Et la question des travailleurs ne sera pas prise en compte. La question de l'école, qui est une question cruciale, n'est pas prise en compte. Aujourd'hui, on nous parle d'une 4e République, d'une nouvelle constitution élaborée par qui et avec quelle adhésion. C'est autant de problématiques que nous pensons qu'il nous faut anticiper par un dialogue.
À 9 mois de la fin de la transition, cette initiative de Mali Prospective 2050 est appréciée par les participants qui estiment que, compte tenu de la situation du pays, une assise est nécessaire pour fixer le cap. Ahmed Mohamed Ag Amani, ancien Premier ministre.
Il faut ces assises pour trouver la solution. Je n'ai pas la solution magique parce qu'elle ne dépend d'aucun d'entre nous. C'est le peuple qui doit décider de quelle architecture institutionnelle De quelle démocratie on doit parler et de quelle administration? C'est lui qui décide, c'est lui qui est souverain.
Cette rencontre entre Maliens pourra être, selon Maître Mamadou Gaoussou Diarra de Mali Prospective 2050, aussi l'occasion de rapprocher des positions qui, à première vue, sont antagonistes pour produire des idées à l'attention des autorités de la transition.
Et on dit en Bambara, Sigafo et Damouye. C'est-à-dire que donnons-nous la chance de dialoguer et de mettre à plat toutes nos divergences, de poser sur la table toutes nos revendications. Vous voulez une chose, moi je veux une autre chose. Et ce n'est pas forcément compatible. Mais si vous vous exprimez et que moi je m'exprime, peut-être que je saurai les limites de ma revendication et vous saurez les limites de votre revendication. Et ensemble, on peut convenir en ce moment d'une plateforme minimale qui tienne en compte les préoccupations des uns et des autres. Et c'est là qu'on peut avancer.
Avec un territoire en majorité hors de contrôle des autorités de la transition, Ahmed Mohamed Ag Amani se dit inquiet pour la tenue des élections aux dates indiquées.
Plus de 60% de notre territoire aujourd'hui est occupé par des djihadistes. On exerce la loi, l'administration qui n'a rien à voir avec l'État. L'État est absent. Donc, de quelles élections on va faire? Sur quel territoire? C'est ça la question qui se pose aujourd'hui. On est arrivé au point où on doute même de l'existence du Mali.
Ancien Premier ministre et très actif sur le terrain, Moussa Mara voit en cette rencontre un espace d'initiative et de proposition afin de corriger les erreurs et insuffisances du passé.
Il ne s'agit pas de se réunir pour indiquer tout ce qui ne va pas dans notre pays. Et il ne s'agit pas aussi de se retrouver pour dire les solutions qui ont déjà été proposées. Qu'est-ce qu'on doit dire de nouveau? Qu'est-ce qu'on doit dire différemment? Comment on doit mettre les Maliens ensemble pour aller dans ce sens-là? Je pense que c'est en cela que des rencontres éventuelles pourraient être utiles, à mon avis.
Les conclusions de ces travaux feront l'objet de partage avec les autorités de la transition et d'autres acteurs sociaux. Mohamed Danyoko, VOA Bamako.
VOA Afrique, 24 heures sur 24, à Bamako, au Mali, sur 102 FM.
Au Gabon, la Journée internationale des familles, commémorée chaque 15 mai, a permis aux chefferies administratives de Libreville d'ouvrir le débat sur les violences conjugales. Le pays prépare d'ailleurs une série de lois pour lutter contre ce phénomène. Compte rendu de notre correspondant à Libreville, Ismaël Obiangze.
Balki Baba est chef de quartier. La représentante de l'administration centrale dans le secteur dit Bellevue 1 à Libreville a initié cette rencontre publique en pleine journée internationale des familles pour inviter les défenseurs des droits de l'homme et des magistrats à débattre des dispositions du projet de code civil soumis au vote des parlementaires gabonais.
Il ne se passe plus un jour sans qu'un homme ne vienne menacer de répudier sa femme qui commence à devenir un peu trop autoritaire. En initiant cette rencontre, j'ai voulu que les chefs de quartier et les autres notables soient en phase avec les textes de loi qui suscitent tant de questionnements.
Les échanges entre experts du droit et le public sur les violences conjugales ont fait ressortir l'urgence d'une sensibilisation de masse avant la promulgation du texte. Léa Béatrice Ndoumou est vice-présidente de l'Observatoire des droits de la femme et de la parité. Elle porte un projet de formation des auxiliaires de justice et des justiciables.
Former des parajuristes, chefs de quartier, serait vraiment très enrichissant parce qu'ils reçoivent du monde. Eux, ils s'occupent en quelque sorte de la médiation familiale dans les quartiers.
Une médiation des conflits qui s'impose déjà dans la cellule familiale. C'est le point de vue défendu par Awa Maïna, elle est veuve.
Nous pouvons édifier nos enfants, conseiller nos enfants, comment il faut vivre avec la famille, les enfants, l'entourage.
Mais les auteurs des violences conjugales ne sont pas forcément les mêmes dans toutes les situations. Une récente enquête nationale indique que plus de 70% des hommes en sont victimes. Manu Badinga, artiste.
Lorsque vous vivez avec une femme qui vous demande des choses qui sont au-delà de vos moyens, parfois... Une femme va dire parce que c'est moi la femme, c'est moi qui dois garder l'enfant. Alors que l'enfant est peut-être mieux chez son père.
Sidonie Owe, magistrate, insiste quant à elle sur le sens de la responsabilité familiale.
Qu'il s'agisse de l'homme ou de la femme, lorsqu'il a la charge d'une famille, porte en fait la parole de cette famille et engage la responsabilité de cette famille lorsqu'un membre de la famille 20 ans, poser un acte répréhensible.
Le gouvernement a mis en place un numéro vert pour toutes les victimes ou témoins des violences sur le genre et les violences conjugales. L'objectif de ce numéro est de permettre que les autorités politiques et judiciaires soient au courant des violences perpétrées, en particulier celles qui se passent le plus souvent derrière les murs des familles. Libreville, Ismaël Obianzé pour VOA Afrique.
À votre avis, votre émission interactive à 18h05, temps universel sur VOA Afrique. Claire Morin-Gibourg avec vous. Les formations techniques ont longtemps été réservées à ceux qui sont considérés comme de mauvais élèves. Pourtant, ces filles se sont révélées souvent plus porteuses d'emplois que celles dites traditionnelles. Faudrait-il plus de centres d'apprentissage technique que de lycées de formation générale? Quel est votre choix et pourquoi? Venez en discuter en direct ce soir dans À votre avis à 18h, temps universel sur l'antenne de VOA Afrique. Vous pouvez également nous laisser vos commentaires et vos coordonnées sur la page Facebook de VOA Afrique. À ce soir, 18h05, temps universel.
Parmi les 54 fédérations sportives que compte le Cameroun, la fédération de cyclisme est classée parmi celles qui parviennent à organiser chaque saison des compétitions nationales et internationales. Malgré cette avancée majeure, les coureurs camerounais peinent encore à se hisser au firmament de la discipline en Afrique. La course cycliste dans le pays fait face à de nombreux défis. De Yaoundé, notre correspondant Emmanuel Jules Tape.
Une seule écurie domine le cyclisme camerounais. Il s'agit de la SNH Vélo Club. Les autres cyclistes proviennent des clubs des villes comme Douala, la capitale économique, Bafoussam, à l'ouest du pays, ou encore de la région de la Damawa, dans la partie septentrionale. Bruno Elumu, secrétaire général de la Fédération camerounaise de cyclisme.
La SNH, c'est une équipe qui est quand même sponsorisée par la Société nationale des hydrocarbures. Et ils ont un statut pratiquement semi-professionnel parce qu'ils ne sont là que pour faire du vélo. Et c'est très difficile de trouver ça dans des autres écuries.
Les saisons sportives à la Fédération camerounaise de cyclisme s'enchaînent cependant. Une quinzaine de compétitions nationales et régionales sont organisées par an, avec en prime deux tours internationaux inscrits au calendrier de l'Union cycliste internationale Africa Tour. Une fois encore, Bruno Elumu, secrétaire général de la Fédération camerounaise de cyclisme.
Il y a 2 ans, nous avons eu le privilège d'organiser pendant 2 saisons successives le Tour de l'Espoir. C'était pratiquement une mini-coupe du monde des moins de 18 ans. En Afrique, il n'y a pas beaucoup de pays qui peuvent se targuer d'avoir parfois 3 compétitions internationales inscrites au calendrier UCI.
Le Cameroun se distingue aussi par une autre compétition d'envergure, la 17e édition du Tour cycliste international du Cameroun, prévue du 28 mai au 6 juin prochain, soit 8 étapes sur 6 des 10 régions du pays. Cette année, une dizaine d'équipes vont participer. 4 viennent d'Europe et 4 autres des pays africains. Le Cameroun aligne 2 équipes pour la compétition. Le cyclisme au Cameroun doit surtout son rayonnement au soutien que lui apporte le président de la République, Paul Biya, adepte du vélo, et de son épouse, Chantal Biya.
C'est la seule première dame en Afrique aujourd'hui, épouse d'un chef d'État en fonction, qui est la marraine d'une compétition cycliste.
Jean-Baptiste Biaillé, directeur de la communication et responsable presse de la FECA Cyclisme.
Depuis 21 éditions pratiquement, elle est la prestigieuse marraine, non seulement de la fédération, mais de la compétition qui porte son nom. Elle a apporté des appuis multiformes pour la petite reine et pour les cyclistes.
La fédération est engagée dans une vaste opération de la relève, une tâche à laquelle Dieudonné Ntepe s'est évertué. L'ex-entraîneur national de cyclisme est décédé le 10 mai dernier des suites d'un accident de circulation alors qu'il conduisait l'équipe nationale pour participer au Tour du Bénin. Par ailleurs, un contrat lie désormais la Fédération camerounaise de cyclisme à un partenaire français pour la formation des jeunes dans des centres appropriés. Yaoundé, Emmanuel Junta, VOA Afrique.
Voilà, c'est tout pour cette édition matinale du Monde. Aujourd'hui, VOA Afrique, merci de l'avoir suivi. Vous étiez en compagnie d'Idrissa Segoulia et de Michel Joseph à la mise en monde. Rendez-vous sur notre site internet voaafrique.com et nos pages Facebook, Twitter et Instagram pour un suivi de l'actualité 24 heures sur 24. Bonne journée.